Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin. Bonjour Frédéric Brun.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de venir nous rejoindre à la librairie Majolir. L'entretien que nous allons avoir sera enregistré pour l'émission Au fil des arts. Vous allez nous parler de votre trilogie parue chez Stock, le premier bouquin, Perla, qui évoque votre mère, le roman de Jean avec la figure de Jean Dréjac, votre père. Et puis enfin, une prière pour Nacha, dans laquelle vous partez sur les traces non seulement de votre tante, la sœur de votre mère, mais d'une partie de votre famille. On va commencer peut-être par le premier,
ouais.
Perla, votre mère. Je vais vous demander de nous en parler. Vous êtes peut-être bien placé.
Écoutez, j'ai écrit une trilogie sur mes parents. Trilogie, le point de départ, en fait, c'est qu'ils ont eu chacun une histoire singulière. Mon père, pour son destin, sa route enchantée dans le milieu de la chanson. Et ma mère, pour des raisons plus tristes, puisqu'elle avait été déportée à Auschwitz. Et j'ai voulu écrire, en fait, des livres de mémoire. Et j'ai aussi écrit un livre sur ma tante, Une prière pour Nacha. J'ai voulu écrire des livres de mémoire. Je pourrais reprendre une phrase de Georges Perec qui disait que ce sont des livres de souvenirs. C'est une écriture pour leurs souvenirs et une écriture pour l'affirmation de ma vie. C'est-à-dire qu'en même temps, ce sont des livres de mémoire et en même temps, c'est pour moi un moment, voilà, d'émettre mes propres opinions, mes propres sensations. Ce sont des livres de croisement, de croisement de pensée.
On y reviendra, mais c'est probablement ce qui fait l'originalité de ces trois ouvrages, tout ce que vous venez de dire, où il y a vous, il y a Perla, il y a Nacha, il y a Jean, mais voilà, vous croisez tout ça et ça donne des romans très, très attachants. Alors, Perla, elle est déportée à Auschwitz, Birkenau, ça dure 7 mois, elle revient.
C'est un livre qui est né juste après la disparition de ma mère, parce que j'ai éprouvé le besoin d'essayer de connaître un petit peu mieux son histoire, parce que quand elle était là et que la vie de la famille se passait normalement, comme toute vie de famille, ma mère n'a rarement eu l'occasion de parler de sa déportation. Et c'est d'ailleurs le cas de la majorité des déportés qui sont survivants. En général, ils ont très peu parlé à leurs enfants parce qu'ils voulaient les protéger. Donc ma mère m'a très peu parlé de sa déportation, ou en tout cas quelques rares fois. Et quand elle est partie, j'ai souhaité connaître un petit peu mieux son histoire, c'est essayer de comprendre ce qu'elle avait vécu. Et en même temps, je me suis rendu compte assez vite que, puisque je connaissais très peu de sa déportation, ce devait être un livre sur le silence, sur la mémoire silencieuse. Voilà, c'est un livre qui ne cherche pas une narration, qui ne cherche pas à trouver des effets d'histoire. C'est un livre basé sur une quête sur la transmission, sur le silence.
Alors, vous dites qu'elle ne parlait pas volontiers, sauf de temps en temps une petite anecdote. Puis vous dites en même temps, elle s'est tue et je n'ai pas voulu savoir. Donc il y a elle, mais il y a vous.
Oui, parce qu'en fait, je pense que ma mère n'a pas voulu beaucoup parler parce que pour protéger son enfant. Et moi, dans le sens inverse, je pense qu'on n'a pas spécialement envie de savoir non plus parce que ça vient gâcher un petit peu finalement les efforts qui ont été faits par vos parents pour vous construire une nouvelle vie. Donc on n'a pas tellement envie de parler de ces choses-là. On est un peu gêné d'en parler.
Du coup, elle porte ce qu'elle a vécu pendant ces 7 mois. Elle le porte comme elle peut, toute seule, et puis à un moment, elle va tomber malade.
Oui, alors en fait, effectivement, je pense que... D'abord, ma mère n'est pas tombée... Ce n'est pas certain qu'elle soit tombée malade à cause de sa déportation. Mmh. dans la mesure où il faut quand même se rendre compte qu'il y a aussi des survivants qui ne sont absolument pas tombés dans la dépression. Mais il se trouve qu'il faut peut-être qu'il y ait des facteurs communs, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un terrain de sensibilité particulier et qui est associé à une expérience aussi difficile que celle-ci peut mener à une certaine forme de dépression. Donc effectivement, je raconte certaines anecdotes dans le livre, notamment quand elle est revenue en France et qu'elle a senti qu'elle avait des débuts de malaise un peu dépressif. Elle avait très peu de moyens quand elle est revenue de d'Auschwitz. Et il y a une anecdote un peu particulière où elle dit qu'elle est allée voir un psychiatre et qu'à la fin, elle savait même pas comment elle allait pouvoir le payer. Et en plus, elle était allée chez un psychiatre des beaux quartiers. Elle voyait la décoration du cabinet de ce docteur. Et elle se disait, mais comment je vais le payer? Et elle lui a demandé combien je vous dois. Et à la fin, le docteur lui a dit, c'est moi, madame, qui devrais vous demander combien je vous dois. J'ai trouvé que c'était une phrase assez marquante que j'ai replacée dans le livre. Voilà, elle a commencé effectivement à avoir des périodes dépressives, j'espère l'avoir aussi transmis dans le livre, c'est qu'il y a aussi il y a les deux aspects. En fait, ma mère a aussi une très belle vie. Je l'ai connue comme une femme élégante, souriante, qui a épousé mon père qui avait un certain succès. Donc elle a eu aussi une très belle existence. Et cette belle existence a été contrastée par ce souvenir, en fait, cette expérience qui était inoubliable. Et puis je raconte aussi à travers les témoignages, ce que j'ai appris à travers certains témoignages, c'est une expérience inoubliable et incommunicable et incompréhensible. C'est une chose qui dépasse l'entendement humain.
On a l'impression que ça n'a pas forcément été facile d'écrire ce livre. Par moments, vous voulez tout jeter par-dessus bord. Puis ensuite, vous vous ressaisissez et vous continuez.
Alors dans ce livre, effectivement, quand je parlais de croisement de pensée, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. D'ailleurs, quand on écrit un premier livre, un premier roman, il paraît que le défaut des premiers romans, c'est qu'on veut en mettre tellement de choses dans un premier roman que souvent, parfois, on en met trop. Et moi, j'ai eu beaucoup d'étapes, j'ai eu beaucoup de manuscrits qui ont évolué avant l'apparition de celui-ci. Il y avait encore beaucoup plus de choses, j'ai simplifié. Et je pense qu'effectivement, il y a un certain aspect dans ce livre qui est comment écrire un livre quand on n'a encore jamais écrit de livre. Qu'est-ce que peut représenter le fait d'écrire un livre? Alors c'est vrai que ça a toujours des correspondances entre l'histoire, l'expérience de ma mère, le sens qu'on peut donner à l'écriture d'un livre aujourd'hui, comment l'écrire. Et puis il y a aussi quelque chose qui a été vraiment marquant pour moi, c'est il se trouve qu'au moment où j'écrivais ce livre, j'ai découvert ce qui est devenue une passion première pour moi, c'est le romantisme allemand. J'ai découvert certains poètes comme Novalis, comme Hölderlin, et ça a été le moment d'une vraie interrogation, parce que je me tournais vers l'Allemagne pour deux raisons totalement différentes, une à cause de la déportation et une à cause de cette culture allemande, du romantisme allemand. Et donc il y a eu beaucoup de questionnements aussi, comment l'Allemagne a pu arriver à autant de barbarie et autant de grâce en même temps à un moment de son histoire. Voilà, c'est pour ça que je parle de croisement de pensée. Il y a un petit peu en Allemagne aussi, il y a ce qu'on appelle un mouvement qui s'appelle le Bildungsroman, le roman de formation, où le héros est en apprentissage. Donc j'ai voulu me mettre aussi comme un personnage en apprentissage dans mon livre, en essayant de comprendre comment pouvait être ma propre formation à travers l'écriture.
Là, vous avez posé une question importante. Vous dites il y a deux Allemagnes. Est-ce que celle de la barbarie et puis celle de Goethe, de Novalis? Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Pourquoi ces deux Allemagnes?
Non, je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus instruites que moi et beaucoup plus, encore plus d'expérience que moi. Je crois que c'est même un écrivain comme Samprin s'est posé la question dans un de ses livres célèbres. C'est très difficile de répondre à cette question. On peut analyser certaines choses. Il y a des points communs entre le nazisme et le romantisme dans la recherche de la pureté de l'Antiquité. Ça, ce sont des thèmes sur lesquels l'histoire allemande s'est beaucoup appuyée. Mais c'est surtout une histoire de récupération. C'est-à-dire que les gouvernements de l'époque ont voulu récupérer les poètes, des poètes qui sont en fait assez purs, et leurs messages ont été souvent déformés. Mais c'est expliquer comment l'être humain est arrivé à ces extrémités, c'est très difficile.
Il y a deux Allemagnes, parce qu'il y a deux hommes. Hein. C'est vous qui écrivez ça.
Oui, mais deux hommes, on veut bien croire à la part de bien, de mal, c'est cet affrontement permanent. Mais là, on est arrivé à une extrémité qui est quand même, comme je disais tout à l'heure, incompréhensible.
Il y a une chose qui me... Enfin, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé, notamment les trois, hein, mais celui-là, il y a des illustrations. Ça m'a permis de redécouvrir Caspar Friedrich. Pourquoi vous avez fait ce choix de mettre des illustrations? Il y en a dans les trois livres, encore une fois. Mais là, c'est ce peintre absolument magnifique qui a des lumières étonnantes. Quand on parcourt les tableaux les uns après les autres, on est absolument stupéfait de cette manière qu'il a de nous amener cette lumière, deux philosophes sur la plage qui regardent au loin et la lumière, la mer, c'est extraordinaire.
Écoutez, j'ai utilisé en fait les illustrations de manière un petit peu romanesque. C'est un procédé, une manière d'insérer l'illustration dans le livre que j'ai beaucoup apprécié chez un écrivain qui s'appelle Sebald, qui utilise beaucoup ça dans ses livres et qui utilise la photographie en noir et blanc qui... augmente la mélancolie du propos, en fait, amplifie la mélancolie du propos. Et j'ai trouvé que quand j'écrivais ce livre, non seulement les illustrations prenaient bien leur place, pour plusieurs raisons, notamment il y a le portrait des poètes, Novalis, Hölderlin. Le portrait de Novalis, pour moi, est très important quand j'ai voulu montrer mon premier coup de cœur pour lui. J'étais tout de suite aussi, non seulement été attiré par ses écrits, mais par son portrait qui est rempli de grâce. Je me suis dit qu'il fallait que le lecteur aussi voie ce portrait, que c'était important. Donc c'est vrai que c'est issu, j'étais assez influencé par la manière d'insérer des illustrations. Ça, c'est un procédé qui est utilisé aussi par l'écrivain que j'apprécie, qui est Alberto Manguel. L'illustration ne vient pas détruire le roman. C'est pas une illustration qui apparaît comme dans un livre d'art ou comme dans un livre de documents. C'est une illustration qui est insérée dans le livre de manière très particulière. Elle est très réfléchie.
Et autre chose qui m'a frappé et qui est d'ailleurs un des éléments de la qualité de ce livre, c'est on suit, enfin presque jour après jour, l'histoire de la grossesse de votre femme. Vous nous parlez de Perla, vous nous parlez de vous, et vous nous parlez de Manon.
Alors, quand je parlais de croisement de pensée, effectivement, donc, il y a un croisement avec le romantisme allemand, le Bildungsroman, le roman de formation, donc cet art allemand. Et il y a aussi un croisement avec les différentes périodes de l'existence, puisque j'ai écrit ce livre au moment de la disparition de ma mère. Je ne voulais pas que cela demeure un livre de deuil uniquement. Et je voulais que ce soit aussi un livre de tourné vers l'espoir, vers la naissance d'un enfant. Donc le fait de parler en fait de la naissance d'un livre, de la naissance d'un enfant, c'était aussi se tourner vers l'avenir et pouvoir aussi finalement rester fidèle au message que je voulais transmettre et puis au message de la mémoire familiale, parce que même si on a parlé de la dépression de ma mère, on a toujours été une famille très optimiste, très rempli d'espoir pour l'avenir, pour les choses qui étaient possibles de faire pour les proches, la société, soi-même. Donc je voulais que ça reste vraiment un livre d'espoir. Donc c'est pour ça que le parallèle me semblait assez évident. C'est que de croiser la naissance et la mort, c'est d'ailleurs un thème qui revient dans le romantisme allemand, le fait de croiser la naissance et la mort. J'ai mis en exergue du roman Perla, je crois, la phrase de Novalis, mmh. La mort est à la fois fin et commencement, rapport intime et séparation avec soi. Donc la mort à la fois fin et commencement. Donc voilà, le commencement, c'était la naissance d'un enfant et d'un livre, puisque voilà, je voulais mélanger. À un moment donné, il y avait une phrase qui me traversait souvent l'esprit, cette fameuse expression à un arbre, un livre, un arbre, un enfant qu'un homme doit réaliser dans sa vie, le fait de planter un arbre, d'avoir un enfant et d'écrire un livre. Et alors, étonnamment, il y a aussi le thème de l'arbre qui est assez récurrent dans mon livre.
Alors, ce Novalis, hein, vous l'évoquez à toute première page du roman, la page 15, je crois. Comment vous l'avez découvert ?
Je l'ai découvert en fait d'auteur en auteur. En fait, c'est souvent comme ça quand on commence à avoir un certain goût pour la littérature, on s'aperçoit que on découvre des auteurs qui sont aimés par les auteurs qu'on a déjà aimés. Mmh. Et ça fonctionne. Donc c'est un fil mmh. rouge mmh. qu'on suit. D'ailleurs, il y a un écrivain qui s'appelle Paul Auster que j'aime beaucoup, qui parle de ce fil rouge de la littérature où on suit les choses selon son instinct, son goût culturel, son goût pour les mots. Et moi, en fait, j'avais c'est parti en fait de Hermann Hesse. En fait, j'avais apprécié un livre d'Hermann Hesse qui s'appelle Narcisse et Goldmoon, et ensuite j'avais lu un deuxième livre qui s'appelait Le jeu des perles de verre, et dans cette préface du jeu des perles de verre était mentionné le nom de Novalis. Je ne connaissais pas, et voilà, il faisait une étude aussi, Hermann Hesse, du Bildungsroman. Il parlait de Goethe, de tous les auteurs qui avaient fait un Bildungsroman, et là j'ai découvert le nom de Novalis. J'ai voulu découvrir le Bildungsroman de Novalis qui s'appelle Henri d'Ofterdingen, et à partir de ce moment-là j'ai été amené à découvrir toute son œuvre, parce que j'ai tout de suite compris que c'est un auteur qui allait être important pour moi.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris jusqu'au soir on chantait l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Au fil des arts, sur Couleur FM 97.1, nous venons d'entendre « Sous le ciel de Paris », une chanson de Jean Dréjac, père de Frédéric Brun. Cette chanson, écrite pour le film éponyme de Julien Duvivier, date de 1951. Elle a été créée et composée par Hubert Giraud, qui vient de décéder. Cette chanson ressemble bien à la vie de celui qui écrivit pour Michel Legrand, Édith Piaf, Yves Montand, Jules Gréco et tant d'autres.
Alors Perlas, c'est 2007. Le roman de Jean, c'est l'année d'après.
Oui.
Dans ce livre, toute évidence, vous n'avez pas eu l'intention d'écrire une biographie qui vous intéresse. Dites-vous, c'est pas de remonter le temps. Hein, vous travaillez avec des analogies, des rappels, des réminiscences, c'est vos propres mots, et en vous appuyant quand même sur des notes que votre père avait écrites et puis qu'il a laissées, qui parsemaient un petit peu partout où il passait.
Oui, alors on n'a pas effectivement parlé du livre sur mon père, alors sur ma mère, Perla. Le livre sur mon père, c'est tout à fait autre chose, même si il y a des points communs, mais l'histoire du livre est assez différente, dans la mesure où j'ai commencé ce livre avec un certain sourire, parce que mon père, pendant de nombreuses années, cela devenait même une blague de famille. Mon père, pendant de nombreuses années, disait il faut à tout prix que j'écrive le livre qui retrace mon parcours. Et ça, il en a parlé pendant 10 ans, 15 ans, qu'il allait écrire ses mémoires ou son autobiographie. Et cette autobiographie n'a jamais été faite. Et quand mon père nous a quittés, j'ai trouvé des notes sur son bureau. Et j'ai découvert la première phrase de ce livre et la dernière phrase. Il avait écrit la première phrase... je suis né quai de France à Grenoble. Voilà, c'était une jolie phrase d'ailleurs. Et puis il avait écrit la conclusion en disant et voilà le livre qui devait être écrit pour que mes enfants connaissent mon histoire. Et entre les deux, il n'y avait rien du tout, à part des petites bribes de temps en temps, des petits fragments notés, des petites pensées. Et puis il y a eu un hasard, c'est que j'ai appris la disparition de mon père. En Grèce, et je l'ai appris à distance. Et quand je suis revenu, j'ai découvert tous ces fragments, ces bribes de pensée après sa disparition. Je me suis rendu compte que non seulement la sagesse grecque fonctionnait par fragments, donc je pouvais construire une histoire avec ces fragments, et puis que le chemin spirituel de mon père avait des rapprochements avec certains philosophes grecs, donc je me suis amusé aussi à faire un croisement.
Ils y sont tous.
Oui, oui, oui.
Aristote, Platon, Parménide, oui. Héraclite.
Bah, j'ai voulu.
Qui manque ? Personne.
J'ai voulu en fait essayer de comprendre quel était le message de chacun sur la mort. Donc j'ai fait une étude. C'est un croisement entre l'Antiquité grecque et puis le parcours. Assez romanesque de mon père. Je pense que dans le livre, ce parcours romanesque prend quand même le dessus, parce que ce qui est le plus important dans le roman de Jean, quand même, c'est le destin d'un jeune homme qui quitte Grenoble à 17 ans et qui va à Paris, et puis qui a une belle carrière de chansons, parce que ces chansons ont été écrites pendant 50 ans, 60 ans, donc ont traversé le siècle entier, donc c'est y a beaucoup d'histoires derrière toutes ces chansons.
Qui ont été chantées par les plus grands interprètes,
hein, oui.
Maurice Chevalier, Édith Piaf, tous ceux que j'ai oubliés aujourd'hui, mais c'est très impressionnant, Yves Montand, il connaissait tout le monde, et tout le monde le connaissait.
Disons que mon père a été connu d'une certaine manière, et moins connu d'une autre. Vous savez, c'est comme dans la chanson de Trenel, et on connaît le nom des chansons, mais des interprètes, mais on ne connaît pas forcément le nom des auteurs qui sont derrière. Il se trouve qu'à un moment donné de son existence, je pense surtout au début des années 60, en 1960, à ce moment-là, mon père avait écrit un certain nombre de succès en même temps, puisque en 1960, je crois qu'il y avait en même temps la chansonnette d'Yves Montand, et puis il y avait Bleu, Blanc, Blond de Marcel Amont. Et à ce moment-là, la télévision lui avait donné une carte blanche pour faire deux émissions en direct à 20h30 uniquement avec ses chansons. Donc là, il y a eu un vrai éclairage national à ce moment-là. Mais sinon, je crois que mon père aimait bien aussi finalement cette discrétion de l'auteur qui écrivait et n'avait pas besoin d'être aussi connu qu'un interprète.
Il y a une chanson qui lui tenait particulièrement à cœur sur une mélodie de Henri Sauguet.
Le chemin des forains.
Oui.
Oui, je crois que c'est le texte dont il était peut-être le plus satisfait, un des textes dont il était le plus satisfait. C'est une chanson qui a été interprétée par Édith Piaf et qu'il a écrite sur une musique d'un ballet de Monsieur Sauguet. Moi, j'aime beaucoup cette chanson.
Oui.
J'aime beaucoup cette chanson. Il y a beaucoup de chansons que... c'est vrai que parmi les chansons de mon père, il y en a qui sont très, très célèbres et puis il y en a d'autres. Et c'est comme pour tous les auteurs, il en a dû avoir 300, 350 chansons enregistrées. On en connaît très bien 10, 12, ce qui est déjà beaucoup hein, pour un auteur. Mais moi, je connais les 350 et des fois, je me dis, tiens, celle-là, j'aimerais bien qu'elle soit plus connue. Voilà, après, c'est peut-être plus les amoureux de la chanson qui vont chercher dans les albums, chanson après chanson. Mais le grand public, lui, connaît surtout les succès populaires.
Vous les écoutez régulièrement, ces chansons de
malheureusement,
Jean Dréjac?
Malheureusement, pas assez. J'aimerais plus parce que actuellement, je suis assez happé par la littérature. Et j'ai, là, par exemple, j'ai terminé. Alors après cette trilogie, j'ai écrit un livre sur Novalis qui m'a pris beaucoup de temps. Actuellement, je suis en train de terminer une anthologie manifeste qui va paraître dans un mois ou sur la poésie et qui me prend aussi beaucoup de temps. Donc en ce moment, j'ai peu de temps pour écouter des chansons, ce que je regrette. Voilà.
Alors, je reviens vers votre père. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas écrit ses mémoires, enfin un bouquin quoi, sur lui? Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait?
Je pense que mon père avait en fait pour deux raisons essentielles. La première, je pense qu'il avait peut-être une appréhension à se confronter au livre après le succès de ses chansons. C'est tout à fait un autre exercice. Donc peut-être qu'il avait peur de décevoir. Bon, enfin, ça, c'est une explication de ne pas être aussi bien qu'il souhaiterait l'être. Et puis, mais ce n'est pas forcément évident. Hein. Et la deuxième raison, ça serait aussi, à mon avis, parce que quand il écrivait des chansons, c'est toujours venu de manière très naturelle, très spontanée. Je ne pense pas que mon père était quelqu'un qui mettait des heures et des heures à peaufiner ses chansons. Il les écrivait de manière très spontanée. Par exemple, je connais comment il a écrit « Sous le ciel de Paris » ou même « Le petit vin blanc ». Ce sont des chansons qui ont été écrites en une ou deux heures. Ce qui est assez... ce qui est assez marquant, en fait, parce que cette chanson « Sous le ciel de Paris », par exemple, était encore largement chantée et on s'aperçoit qu'elle est elle a été écrite c'est comme un éclair très rapidement. Et je pense que le livre, c'est quelque chose de plus difficile, c'est un exercice qui se fait dans la lenteur, dans le calme. Et je crois que mon père n'a pas eu d'ailleurs l'occasion de s'installer dans ce calme nécessaire. Souvent il disait, alors l'excuse qu'on pourrait lui donner, c'est qu'il disait il avait le projet un jour parce qu'il était uniquement parisien, mais il rêvait d'avoir s'installer un jour dans une maison dans le sud. Il n'a pas jamais pu aboutir ce projet. Il disait toujours, quand j'aurai mon bureau, quand je serai au calme, quand je verrai la plaine au loin, là je pourrai commencer ce livre. Donc je pense qu'il n'a pas eu le temps de se construire ce moment de calme et peut-être que finalement il était mieux dans la spontanéité de la chanson.
Alors par moments on a l'impression que c'est un dialogue entre vous et votre père. Vous lui dites tu tout au long du roman, des fois plus souvent, mais
J'ai voulu aussi installer une certaine distance, en fait, avec... même si c'est un sujet très, très intime, J'ai tenu à garder une distance en étant comme une espèce de narrateur assez neutre pour faire ressortir à quel point je voulais que mes parents deviennent des personnages de romans, que ce soit eux qui soient mis en avant. Donc dans Perlaï, le style est plus peut-être dans le narrateur parle à la première personne, mais une espèce de silence comme ça. Et dans le roman de Jean, je sais pas, le tu est venu assez rapidement. Et ici, c'est imposé pour décrire mon père, pour essayer de faire en même temps cette distance. Je voulais aussi que ce soit pas un livre qui soit uniquement pour mettre un père sur son piédestal. Je voulais le montrer tel qu'il était, avec ses qualités, avec ses défauts, avec voilà. Même si je pense que il a beaucoup plus de qualités que de défauts, mais je voulais pas que ce soit un livre hommage dans l'absolu.
D'un père qui a jamais été un obstacle à votre vie d'adulte, c'est remarquable, hein. Vous dites que vous avez jamais eu besoin de tuer le père.
Non, en fait, j'ai toujours eu, voilà, je me suis rendu compte de la chance que j'avais d'avoir. Puis je pense que mon père aussi a été un père très très présent, m'a beaucoup accompagné dans mes aventures d'enfant, d'adolescent. Et il a toujours été présent. Et donc, sympathique et. J'ai jamais eu ce besoin d'avoir un conflit avec lui. C'est pas une admiration comme ça toute simple, mais il y a les choses. J'avais pas trop de choses à lui reprocher en fait.
En parlant de lui, vous avez une phrase très belle, je trouve. Une vie peut toujours être mieux ou moins bien que ce qu'elle a été, mais c'est sa singularité qui la rend belle.
Oui, parce que j'ai parlé de destin singulier. En fait, la rencontre de mon père et de ma mère, c'est aussi de la singularité. Ce que j'ai trouvé assez aussi quand j'ai toujours gardé à l'esprit quand j'ai écrit ces livres, ce fait pour moi, incroyable à mon niveau, c'est pas incroyable pour forcément pour les gens qui nous écoutent, mais moi, comme je l'ai ressenti, c'est que au moment où ma mère a été déportée, en fait, c'est à ce moment-là que mon père était en plein succès. Ils ont vécu exactement dans ces mois-là, totalement l'inverse. C'est-à-dire que mon père était en train le succès du Petit Vin Blanc est arrivé pratiquement à la libération de Paris, et puis juste après. Et ma mère, elle, était dans ses derniers mois de déportation et sur le chemin du retour. Et ils étaient totalement dans un schéma de vie totalement différent. Et puis, ils ne se sont pas rencontrés. Ils ont mis beaucoup de temps à se rencontrer, parce que là, je parle de 1944-45. Et ils se sont rencontrés en 1960. Donc voilà, donc c'est aussi le destin singulier de deux êtres, finalement, parce qu'ils se sont beaucoup aimés. C'est une vraie histoire d'amour. Donc, c'est aussi assez singulier de se dire que voilà, ils avaient des chemins assez éloignés à un certain moment donné. Ils se sont retrouvés.
En Haute-Savoie ?
Ils se sont retrouvés, oui, à Megève.
À Megève. En même temps, vous l'avez laissé entendre, hein, en répondant aux différentes questions. C'est un livre de réflexion sur la mort. Mais pas dans le sens pesant. Néanmoins, la mort est très présente. Vous parlez de ce passage, là, une traversée du l'été. Vous évoquez l'idée de préparer sa valise, et elle revient constamment, cette mort.
Oui, parce que je pense que on est tous, quand on est confronté à la disparition d'un être très proche, c'est une vraie révolution intérieure. Alors, il se trouve que pour moi, pour plusieurs raisons, il y a certaines personnes qui, voilà, tout le monde s'en remet. Se remettre ce drame personnel à sa manière. Et moi, c'est vrai que c'est un drame qui... Cette révolution intérieure, elle a duré longtemps. Et puis, comme j'étais assez attaché à mes parents, et puis que j'étais enfant unique, et que j'ai aussi une tendance à être assez rêveur, assez mélancolique, c'est vrai que Ces livres ont été un moyen, pour moi, un moment de réflexion sur l'importance de la mort dans l'existence et comment la tristesse qu'elle nous apporte peut éventuellement être dépassée pour... Dans ce sens, Novalis est très important puisque on a dit que c'était le premier poète qui avait donné un sens poétique à la mort. Quand Novalis est un poète qui a toujours fréquenté la mort de très près parce que la jeune fille qu'il devait épouser, qui avait 15 ans, est morte juste avant son mariage. Son frère, un de ses jeunes frères, est mort juste après. Et quand sa fiancée est partie, il est allé dans un cimetière pendant une semaine se recueillir sur sa tombe. Et au moment de ses recueillements, il a eu des fulgurances qui lui ont inspiré ces fameux hymnes à la nuit. Et il a voulu décrire justement comment on pouvait dépasser la mort par rapport à sa croyance en une espèce d'éternité. Novalis en parle très bien, il m'a beaucoup aidé sur ce chemin-là.
Dans le roman de Jean, il y a vos enfants qui ponctuent régulièrement votre écriture, à tel point que je crois que c'est à la fin d'un chapitre, vous dites à votre père, je suis désolé, je vais devoir te quitter parce qu'il faut que je rejoigne mes enfants. Et c'est comme la grossesse, la première, ça ponctue le bouquin.
Oui, même le deuxième enfant qui doit arriver dans le roman de Jean. J'ai l'impression, dans Perla, il n'y en avait qu'un, dans le roman de Jean, le deuxième qui arrive. Oui, c'est il y a toujours cet esprit de continuité.
On a tous dans la tête des corbeaux qui s'envolent vers un ciel bleu marine. Un sentier qui s'arrête, un nuage qui s'affole, une fin qu'on devine. On a tous dans la tête une sale idée fixe dans un café de nuit. Une horloge qui s'arrête à jamais sur le 10, un peu après minuit. On a tous une ville, une ferme, une lande qui ressemble à Eton. Des amours en exil, des souvenirs en Hollande, des passions qui s'éteignent. On a tous dans sa vie un lit abandonné, une chambre fidèle. On a tous eu envie un soir d'y retourner, une nuit sans sommeil. On a tous dans la peau un tableau. On a tous dans le sang la folie d'un moment. On peint tous ses défauts au couteau. On a tous dans le sang le regard de Vincent. On a tous dans un port, comme sur le quai d'Anvers, des bateaux amarrés. On a tous vers le nord eu la peur de l'hiver, dans un brouillard épais. On a tous une femme pliée dans la mémoire, un modèle au sein nu. On a chacun ses draps, on se coupe au rasoir, dans ses portraits déçus. On a tous dans la peau un tableau. On a tous dans le sang la folie d'un moment. On peint tous ses défauts au couteau. On a tous dans le sang le regard de Vincent. On a tous dans la tête des corbeaux qui s'envolent vers un ciel bleu marine. Un sentier qui s'arrête, un nuage qui s'affole, une fin qu'on devine.
Au fil des arts, sur Couleur FM 97.1, nous venons de croiser le regard de Vincent. Cette chanson, qui date de 1989, a été écrite par Frédéric Brun sur une musique de Romain Didier qui en est l'interprète. Frédéric Brun a eu beaucoup de plaisir à écrire ce texte pour Romain Didier, qu'il va retrouver un peu plus tard dans l'aventure de Pantin Pantine.
Et la continuité va alors encore être présente dans Une prière pour Nacha, parce que alors, si on peut pas parler un tout petit peu
Bien sûr.
Livre, c'était un livre important pour moi et puis qui m'a permis aussi de boucler la boucle, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que donc le point de départ de ce livre, c'est que ma tante, à la fin de son existence, a souffert de la maladie d'Alzheimer. Et je me suis retrouvé en fait finalement face au même silence que celui dont on a parlé à propos de ma mère. À savoir que je me suis posé une autre interrogation, je me suis posé d'autres questions par rapport à mes racines familiales du côté de ma mère et de ma tante, et j'ai désiré faire le voyage en Pologne qu'elle-même n'avait jamais osé refaire. Et je suis parti sur ces racines, en quête de ces racines familiales. Je suis allé dans le village qu'elles avaient quitté, ma tante et ma mère, à l'âge de 2 ans, quand elles sont venues en France. Et c'est un livre qui a été assez difficile à écrire, peut-être plus difficile que les deux premiers, parce que j'ai traversé d'abord les cimetières dévastés de Pologne. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des millions de personnes qui sont mortes en Pologne, et que les cimetières sont complètement abandonnés, les stèles ne sont pas entretenues. Et puis, quand on recherche des traces de sa famille là-bas, on s'aperçoit que, par exemple, la synagogue a été rasée. Donc, les maisons n'existent plus, donc il ne reste pratiquement rien. Et quand on est à la recherche de racines familiales dans ce pays, c'est vraiment assez triste. Alors, encore une fois, j'ai voulu dépasser tout ça, cette tristesse. Et j'ai quand même réussi à trouver la stèle de mon arrière-grand-père. Et j'ai été assez merveilleusement surpris au moment de la découverte de cette stèle, parce qu'il y avait elle était enfoncée dans la terre. On a dû, avec les amis qui m'avaient accompagné, la déterrer, et on a vu un arbre sur cette stèle, et avec une phrase marquée sous cet arbre. Et cet arbre avait une branche cassée, et j'ai demandé qu'on me traduise la phrase, et la phrase était une branche de l'arbre a été cassée, mais l'histoire continue. Et en fait, pendant ces livres de transmission, il y avait j'ai parlé de l'arbre. L'arbre revient tout le temps, parce que je trouve que quand on contemple un arbre, on peut avoir son esprit un petit peu relié éventuellement, même certains poètes parlent on peut être relié à la parole des disparus, parce que l'arbre nous envoie quelque chose. Et donc l'arbre revenait tout le temps dans mes livres, et je disais, oui, peut-être que ces arbres me parlent des disparus. Et quand je suis arrivé devant cette stèle, j'ai vu un arbre, et je me suis dit finalement que le chemin de cette trilogie avait un sens, puisqu'elle m'a amené à cet arbre sur cette stèle. Et ce chemin de mémoire, de transmission, n'est pas arrivé par hasard.
C'est en même temps un livre sur la culture de ces juifs venus du Nord, les juifs ashkénazes aussi, peu. Hein, quand vous parlez des shtetls, quand vous parlez des Yisker Booker,
oui, alors
vous pouvez expliquer ça.
Oui, alors justement, si j'ai appris aussi la notion en écrivant ce livre de Yisker Bour, qui pourrait correspondre d'une certaine manière au livre que je voulais écrire. Parce que un Yisker Bour, c'est un livre du souvenir. Parce que les Juifs en Pologne, avant la guerre, vivaient souvent dans des villages qu'on appelait des shtetls, qui ont complètement disparu après la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont des villages qui avaient une vie tout à fait pittoresque. Et les Juifs, pour que la mémoire de ces villages puisse être continuée, on écrit des Yisker Bour. Donc il y a un Yisker Bour de chaque shtetl, de chaque village. Et dans ce Yisker Bour, on a pris le soin de dire quelles sont les familles qui vivaient là, comment était l'école, comment se passaient les, les moments de prière à la synagogue, quelles étaient les professions des uns et des autres, quels étaient les problèmes dans le village, qui se disputait, avec qui, voilà. C'est vraiment des livres qui sont une espèce de photographie souvenir de villages qui ont été engloutis dans l'histoire. Et ces Yiscorbourg, en fait, donc, sont assez associés aussi au. Pour moi, le livre a quelque chose de sacré. Le livre est quelque chose qui dure par rapport au monde des médias ou au numérique, à la télévision, au cinéma. Je trouve que le fait que le livre ait une existence comme ça physique, qui puisse, qu'on ne peut pas détruire aussi facilement, le livre continue à travers les temps. Et le Yiscorbourg marque bien l'importance du livre par rapport aux souvenirs.
Alors, cette femme, Nacha, qui est en train de perdre sa mémoire, il y a aussi d'autres raisons pour que vous ayez eu envie d'écrire sur elle. Pas seulement les recherches que vous allez entreprendre sur ses racines à elle, mais il y a autre chose.
En fait, je m'aperçois qu'on dit souvent que les enfants, les petits-enfants sont plus curieux que les enfants. C'est-à-dire que le voyage que j'ai fait en Pologne, ma mère et ma tante ne l'ont pas fait. Et moi, peut-être qu'une génération après, j'étais encore plus concerné par cette recherche de racines. Il faut dire que j'ai pu la faire aussi à un moment donné où la Pologne n'a pas totalement évolué à tous les niveaux, mais a quand même évolué d'une certaine manière. Et ma mère a du mal à revenir en Pologne parce que déjà, avant la chute du mur, en 89, c'était beaucoup plus compliqué de retourner là-bas. Mmh. Et puis après, elle était assez âgé pour faire le voyage. Donc j'ai pu faire aussi le voyage parce qu'il était plus facile. Mais c'est vrai que j'ai voulu, voilà. Et puis il y a aussi quelque chose, c'est que ma mère, quand elle est arrivée en France, elle a vraiment voulu se débarrasser totalement de ce qui a été, certes pour une certaine forme de protection, de son passé juif. D'ailleurs, j'emploie le mot Perla, qui n'est pas le prénom. Je n'ai jamais appelé ma mère Perla parce que quand les Juifs se sont installés en France après la guerre, ils avaient le droit officiellement, ça on ne le sait pas beaucoup, d'avoir un prénom, sur sa carte d'identité déterminé par la mairie avec une correspondance. Toutes les Perlas avaient le droit. Par exemple, pour ma mère, c'était le prénom Paulette. Et chaque prénom juif avait sa correspondance en prénom français. Donc, ma mère a changé de prénom. Elle n'a jamais été très pratiquante non plus. Et voilà. Et donc, elle n'a pas eu. Je pense qu'elle ne voulait pas remonter ce passé, vers ce passé, ses origines. Et c'est finalement la génération d'après qui a envie de se tourner vers ses origines.
Nacha, donc la sœur de Perla, à la différence de Perla, elle n'a pas connu la déportation. Elle a trouvé refuge quelque part dans le sud de la France.
Oui, elle a été protégée par des justes de France dans la ville de Ribérac, Périgord.
Comment se fait-il qu'elle soit arrivée là et puis qu'elle ait rencontré ces personnes? Elle a eu de la chance.
Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment la rencontre s'est faite exactement. Voilà, je sais que par contre ma mère a été beaucoup plus imprudente parce qu'elle a commencé par être là-bas puis elle est revenue à Paris. Elle n'aurait pas dû.
Est-ce que vous imaginez écrire d'autres fictions? Vous avez parlé d'un livre là, après celui de Novalis. Est-ce que vous pensez revenir vers le roman?
J'écrirai certainement d'autres romans plus tard, mais à court terme, je suis en fait assez fasciné par un projet. J'ai monté une édition qui s'appelle Poésis et qui est sur le thème « Habiter poétiquement le monde », donc sur la relation poétique que chacun peut avoir avec le monde. Et je me suis lancé dans cette aventure qui, en fait, n'est un petit peu loin de la fiction et qui est donc plus sur la réflexion de la poétique ou du poétique. Et dans les années qui viennent, je me sens plutôt attiré par ce genre de projet.
Avant de vous quitter, Perla, combien de temps vous a-t-il fallu pour l'écrire?
Très longtemps.
C'est-à-dire
7 ans.
7 ans,
oui. 7 ans. C'était vraiment un livre d'apprentissage de l'écriture. Et puis, il a mûri très longtemps. Il a vu certains, je pense, choses qui devaient être dépassées au début dans le style, il y avait trop de choses au départ dans ce livre. Et puis j'ai beaucoup écouté des proches qui ont lu les différents manuscrits et qui m'ont dit oui, mais là tu devrais peut-être insister sur ces aspects-là. Donc j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, mais je pense que c'est important de prendre le temps de l'écriture.
Les deux autres sont allés plus facilement, si je puis dire.
Le roman de Jean est allé assez vite, en fait. J'ai mis un an pour l'écrire, même moins, 7-8 mois. Une prière pour l'achat, 2 ans. Et puis à nouveau, le livre sur Novalis, 4 ans. Alors, vous voyez, c'est assez... Mais il faut quand même entre 2 et 4 ans pour écrire un livre, peut-être.
Entrez au petit bal des vélos cassés.
Pas. Tu pleures?
Non, j'ai les yeux qui me piquent, juste les yeux qui me piquent.
Ici, grands et petits, tout y voient-ils. Entrez par la sortie, pas de veste noire, les rouges obligatoires.
Pantin était en quelque sorte revenu. Disons, son souvenir semblait redonner courage et confiance à chacun de ses amis.
Au fil des arts, sur Couleur FM 97.1, nous étions avec Frédéric Brun. Nous avons aussi aimé le petit bal des vélos cassés, extrait d'un spectacle musical, Pantin Pantine, créé en 1997 par Gérard Lefebvre, alors directeur du Conservatoire national de musique de Bourgoin-Jallieu, qui demanda à Romain Didier et Alain Leprest de lui écrire un conte musical qui serait interprété par des enfants et qui est toujours joué dans les conservatoires. L'ensemble a été produit par Frédéric Brun.
Moi, je suis très touché d'être ici parce que, comme on en avait parlé par téléphone, un attachement avec Bourgoin-Jallieu, j'ai une histoire. Et, si, pour des raisons professionnelles, je suis venu ici pour la première fois en 1997 à l'occasion de la production et de l'édition, parce que j'étais éditeur musical avant d'être éditeur littéraire, pour mener à bien un projet qui s'appelle Pantin Pantine. Donc j'ai découvert ici la création de Pantin Pantine par le conservatoire. Après, on a eu différentes étapes comme l'enregistrement du disque qui a été fait aussi dans la région. Ensuite, j'ai toujours gardé un contact avec le conservatoire parce que ce disque de Pantin Pantine a eu une certaine médiatisation. Il avait été nominé aux Victoires de la musique, donc je me souviens que les enfants de Bourgoin-Jallieu étaient venus à Paris pour faire une répétition pour l'émission. Ces enfants étaient aussi venus à Paris pour faire un spectacle de Pantin Pantine à l'Olympia. Et puis nous avons fêté 10 ans après, en 2007, nous avons fêté les 10 ans de... Quand je vois la date sur le bandeau de mon livre d'ailleurs, je m'aperçois que je devais peut-être écrire Perla un peu aussi dans le train quand je venais revoir l'anniversaire. Voilà, on a remonté une deuxième fois Pantin Pantine au conservatoire pour les 10 ans. Ça a été un joli moment. Et puis j'étais assez lié avec un monsieur que j'appréciais beaucoup, dont la disparition m'a rendu très triste. Voilà, Gérard Lefebvre. Et Gérard Lefebvre avait eu aussi la gentillesse d'organiser en première partie d'un concert de Romain Didier. Alors Romain Didier est le compositeur de Pantin Pantine. Donc Romain Didier avait fait un concert ici à Bourgoin. Et en première partie, il avait fait un hommage aux chansons de mon père. Voilà, donc beaucoup d'occasions se sont présentées ici.
Et alors dans cette histoire... qu'est-ce que vous faisiez ? Vous avez produit Pantin ? Vous avez...
Oui,
c'est ça.
Oui,
vous étiez le producteur, l'initiateur.
Oui.
Non, pas l'initiateur.
En fait, producteur, ça veut dire coordinateur, dans la mesure où... Bon, je travaillais déjà avec Romain Didier, parce que on travaillait sur différents projets ensemble. Et puis, à un moment donné, il m'a dit « Est-ce que tu veux pas organiser l'enregistrement, produire cet album ?» Et donc ça veut dire trouver les financements pour le faire, ça veut dire organiser l'enregistrement, c'est-à-dire choisir en collaboration avec le compositeur et le réalisateur musical, choisir l'orchestre, savoir où les enfants vont être enregistrés, choisir la pochette du disque, et puis après trouver un moyen de le médiatiser, c'est-à-dire trouver un label, comme on dit, trouver une maison de disque pour le faire. Donc c'était une très, très belle aventure, je trouve, Pantin Pantine. Peut-être qu'on aura l'occasion de... Peut-être qu'un jour, ça sera remonté, encore une troisième fois, on ne dit jamais 203. Peut-être une troisième fois à Bourgoin, qui sait.
Merci, Frédéric Brun.
Merci pour votre accueil.
Au fil des arts, Daniel Zirotti,
Dominique Molin.